Dominique de Cavel vous soigne les yeux dans les yeux.
L'hypnothérapie est l'utilisation de l'hypnose pour traiter une maladie ou une affection. Elle introduit des changements durables dans l'esprit du patient, changements qui vont vers des objectifs définis par le patient en début de thérapie. Ces objectifs peuvent varier au cours des soins, une fois que certaines difficultés ont été dépassées. L'étude scientifique de l'hypnose en thérapie est en plein essor depuis le milieu du XXe siècle. De nombreuses études ont permis de mettre en évidence l'intérêt de l'hypnose dans le traitement des troubles psychologiques, mais aussi dans le traitement de ceux qui paraissent purement physiques. Le corps et l'esprit sont intimement liés et chacun des deux influe sur l'autre. Quand le corps va mal, l'esprit va mal aussi, et quand l'esprit souffre, le corps souffre également. Dominique de Cavel, hypnothérapeute à Sisteron, présente les différentes facettes de la profession qu'elle exerce au micro de Chris Alessandri.
L'hypnose d'abord, qui est un sujet qui me tient à cœur parce que je suis passionnée par l'hypnose. Et en fait, étrangement, c'est le yoga qui m'y a menée. Parce que quand je suis devant une salle et que j'allais dans une sorte de transe, je me disais, mais que faire de cette transe ? Pourquoi j'amène les gens en transe en leur indiquant des mouvements à faire? Et voilà, j'ai eu la réponse il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça que j'ai fait une formation d'hypnose et ça m'a passionnée. Grâce à l'hypnose, on devient plus présent. Plus présent à la vie, plus présent à ce qui nous entoure. Tout devient extrêmement intense. Voilà.
Alors là, nous sommes dans l'hypnose ericksonienne. De quelle sorte d'hypnose s'agit-il et comment la définir ?
Alors, nous ne sommes pas que dans l'hypnose ericksonienne. Je pratique l'hypnose ericksonienne, la nouvelle hypnose, bien sûr. C'est la même chose parce que l'hypnose ericksonienne, c'est vraiment Erikson qui faisait l'hypnose ericksonienne. C'était un personnage qui avait tellement de talent qu'on ne peut pas se mesurer à lui, on va dire. Chacun apporte sa touche à n'importe quelle thérapie, on va dire. L'hypnose humaniste, c'est un type d'hypnose qui... On va dire qu'en hypnose ericksonienne, on exploite la fracture qui est entre le conscient et l'inconscient, qui est une fracture naturelle.
Ça peut être quoi ? Par exemple, l'angoisse, la dépression ?
Alors ça, c'est un autre domaine. On peut traiter l'angoisse, de la dépression. Les gens qui viennent me voir, c'est souvent pour arrêter de fumer, ou parce qu'il y a un chagrin d'amour, ou parce que donc il y a une compulsion, parce qu'il y a une phobie, parce qu'il y a des angoisses, parce qu'il y a des allergies. Enfin, ça permet d'éliminer tellement de problématiques qu'il me faudrait beaucoup de temps pour décrire tout ce que ça peut modifier. C'est-à-dire, on va avoir, en hypnose ericksonienne, on va avoir une action sur l'inconscient directement. On va occuper le conscient d'une manière ou par la confusion ou par... On va lui demander un maximum d'attention parce que le conscient, on peut dire le conscient, c'est notre ego. C'est celui qui contrôle toujours, qui vérifie toujours, qui se mêle toujours de tout. Et l'inconscient n'agit que sur ordre. Sur ordre du conscient, mais si on élimine le conscient, on va pouvoir lui donner des ordres et on va pouvoir modifier certaines actions qu'il fait par peur. Toujours la peur qui est partout, quoi. En hypnose humaniste, on va au contraire supprimer la fracture qui est entre le conscient et l'inconscient, et donc la personne va se retrouver complète, totale, avec tous les moyens qu'elle possède et de créativité aussi, pour donner d'autres indications à l'inconscient.
De quelle façon ça se pratique ? De quelle façon est-ce que vous le pratiquez avec le patient ? De quelle façon est-ce que vous l'amenez à cette réflexion, à cet état ? Physiquement, comment ça se passe ?
Alors, l'hypnose ericksonienne, on va amener des suggestions qui vont occuper le conscient et pendant ce temps, on va donner les ordres à l'inconscient. Une fois que le conscient est éliminé, mis de côté, même si la personne est consciente de ce qui se passe, qu'elle peut intervenir à tout moment. On dit toujours que la personne, le thérapeute, peut manipuler la personne. Moi, je vais dire c'est faux, sauf si on met la personne en transe très profonde, ce qui est complètement inutile.
Donc, il y a plusieurs niveaux. On peut accéder à tous ces niveaux.
On peut accéder à plusieurs niveaux. Ça dépend de la personne aussi. Ça dépend de la pratique. C'est pour ça que dire on va arriver à arrêter de fumer en une séance, ça ne veut rien dire. Ça dépend de la personne qui vient, si elle est suffisamment facilement suggestible ou pas.
Alors il faut faire quoi ? Il faut capter son attention d'une façon pour la faire se détendre techniquement ?
On va la ramener au corps, on va la ramener à la sensation du corps, à son contact, on va la mettre en confiance par tous les moyens qu'on peut avoir. Et pendant ce temps, on va occuper le camp de s'étaler, de se créer, de s'expanser, de devenir très puissant en fait. Et de lui montrer toutes ses capacités, toutes ses possibilités. On va réunir inconscient et conscient. et on va donner d'autres, on va dire, d'autres instructions à cette réunion du conscient et de l'inconscient pour modifier la personne. On ne peut pas modifier la personne, mais on peut modifier la mémoire. La mémoire et les actes et la manière de réagir aux événements qui surviennent.
C'est une technique dont l'évolution est rapide au niveau donc de la perception du patient ?
Immédiate, pratiquement immédiate. La personne qui sort de là et la personne qui est entrée sont différentes. Je les vois, moi je vois des gens catastrophés arriver et tout, et ils repartent avec le sourire.
On peut dire que c'est une thérapie brève ?
Oui, oui, c'est une thérapie brève. Même si l'hypnose, grâce à l'hypnose humaniste, on peut faire une psychothérapie. On peut s'attaquer à l'enfant intérieur, à son côté féminin, son côté masculin, et remettre ça à son critique, et redresser la personne, on va dire, la reconstruire.
Il y a un penseur, justement, du Cachemire, qui disait, symbolisait un tout petit peu la perception de l'homme, en le comparant à deux oiseaux sur un arbre. L'oiseau qui mange sur l'arbre, et l'oiseau qui regarde manger.
Alors ça, c'est le maître et l'élève, on va dire, bien que ça n'existe pas dans la tradition, il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'élève, mais le maître regarde en souriant l'oiseau qui mange.
Dominique de Cavel, pour les personnes qui ont envie de mieux vous connaître, vous rencontrer, alors on va rappeler donc l'endroit où vous vous trouvez à Sisteron.
Alors c'est 12 rue de la Pousterle là, à Sisteron, dans le 04 des Alpes de Haute-Provence, voilà, un petit studio sympathique, où je vous accueillerai volontiers.